Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chère mamas, future mamas ou pas mamas du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. C'est à l'adolescence que les médecins annoncent à Julie qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant biologique. Voyant qu'elle n'a toujours pas ses règles, elle consulte et on découvre qu'elle a un cycle ovarien classique, mais pas d'utérus. À ce moment-là, le sujet de la maternité est encore loin. Julie se concentre d'abord sur sa vie de jeune femme, tout en gardant en tête cette possibilité dont lui ont parlé les médecins, à savoir de recourir un jour à une GPA. Alors quand avec son chéri, ils envisagent de devenir parents, ils étudient ensemble les différentes possibilités. Ne pas avoir d'enfant, adopter, faire une greffe d'utérus ou une GPA. Et c'est cette dernière option qui est retenue. Dans cet épisode, Julie nous raconte tout le parcours à suivre quand on décide de faire appel à une mère porteuse aux États-Unis, l'attente, les montagnes russes quand le Covid débarque et confine tout le monde à quelques semaines de l'accouchement. Elle nous raconte comment elle a réuni une somme conséquente pour payer la GPA, comment on demande un prêt à la banque pour un projet aussi controversé et la difficulté à prendre sa place quand l'une est porteuse et l'autre est mère. Bonne écoute!
Hello Julie.
Bonjour.
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas.
Bah de rien, je suis ravie.
Alors, toi, tu es la maman d'un enfant.
Oui, de Rose.
Et il a quel âge?
De Rose qui a 3 ans.
D'accord, donc une petite fille qui a 3 ans. Ok, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je te laisse te présenter un petit peu.
Oui, donc moi je suis Julie, j'ai 37 ans, je suis directrice d'un théâtre et responsable d'un service culturel dans une ville du 95 à Cormeilles en Parisie.
D'accord. Alors, on va revenir avant que toi tu deviennes maman plus jeune. Quel regard tu avais sur la maternité? Est-ce que tu t'es toujours dit que tu deviendrais maman un jour ou pas du tout? C'était pas un sujet qui t'intéressait?
Alors, la particularité, c'est que moi j'ai appris que je pouvais pas porter d'enfant avant même avoir eu le désir d'être mère. J'étais toute jeune, j'avais 14-15 ans. En fait, j'avais pas mes règles. Et donc, on a fait des examens un peu plus poussés. Et on a découvert que j'étais atteinte d'un syndrome qui s'appelle le syndrome MRKH, qui fait que j'ai pas d'utérus. J'ai un cycle ovarien classique, mais j'ai pas d'utérus. Et du coup, on m'a annoncé que je pouvais pas porter d'enfant. Mes questionnements sur la maternité, en fait, se sont construits avec le fait de pas pouvoir porter d'enfant.
Comment tu l'as vécu à 15 ans de savoir que tu pourrais jamais devenir mère?
Disons que c'était pas le sujet parce que au départ en fait ce qui me préoccupait c'est que c'est un problème de développement. Du coup j'avais un vagin qui était pas développé et au départ je pouvais pas avoir des relations sexuelles normales. Donc j'étais plutôt concentrée là-dessus, surtout que j'avais un premier petit copain avec qui ça commençait à être sérieux et donc mes préoccupations étaient plutôt sur ça à ce moment-là.
Ok. Et alors, comment tu as résolu ce premier problème physique?
Alors, vu que en fait le vagin est un muscle et que j'ai une des formes les moins graves ou en tout cas les plus simples, en fait, avec mon conjoint de l'époque, en faisant l'amour, mon vagin s'est naturellement agrandi. Donc, ça a été long, douloureux, mais on l'a fait tous les deux en prenant le temps. Et donc, le problème s'est résolu avec le temps et avec lui.
Ok. Ah oui, donc t'en parlais avec lui, parce que 15 ans, on peut se dire que ça peut être tabou. Toi, t'arrivais à en parler facilement?
En fait, c'était mon quotidien à ce moment-là, donc ça me paraissait un peu... vu qu'en fait j'ai fait une célioscopie, j'ai été hospitalisée et on a découvert ça suite à cette opération. Donc lui savait que j'étais hospitalisée. Donc en fait naturellement c'est devenu un sujet de conversation.
Ok. Et alors après, à quel moment le sujet de la maternité est revenu sur le tapis?
Je pense que je l'ai toujours mis un peu de côté, en me disant qu'on verra quand ce sera le moment, on verra. Mais en fait, dès le départ, les médecins m'avaient présenté les choses. Enfin, tout de suite, en fait, la GPA était un sujet. On m'a présenté les choses en me disant, peut-être qu'un jour tu pourras avoir ton propre enfant. Il y a des techniques développées aux États-Unis. Donc je crois qu'en fait, dans le fond, j'avais toujours un peu ça en tête, mais je me suis jamais tenue au courant, j'ai laissé ça un peu de côté. J'ai fait ma vie, et puis après, il y a quoi maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années quand je me suis mise avec mon conjoint de maintenant, donc Johan, et que bah, les choses commençaient à devenir sérieuses, que mes amis commençaient toutes à être enceintes, à avoir des enfants, le sujet commençait à se poser. Et donc, on va dire que c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon... Enfin, en fait, c'est quand mes amis ont commencé à être maman, je me suis dit, tiens, ça va peut-être être bientôt mon tour. Et puis quand les gens aussi autour, au travail, commencent, quand on s'approche de la trentaine, commencent à poser des questions un peu anodines... c'est quand on tourne, donc on va dire que c'est un peu le cours de la vie. Est-ce que la société nous impose aussi qu'à un moment donné, je me suis confrontée à ces questions-là.
Et tu en avais discuté avec ton conjoint au début de votre relation, du fait que tu pourrais pas avoir d'enfant physiologiquement?
Ouais, en fait, on se connaît avec mon conjoint, on était d'abord amis, on était au lycée ensemble, on était même meilleurs amis, donc... il a pas su tout de suite ce que j'avais, mais un soir après une fête en buvant des coups, en fait c'est venu sur la table. Donc lui il savait dans quoi il s'engageait avec moi quand on s'est mis ensemble. Et puis quand un jour il m'a demandé si je voulais faire un enfant avec lui, je lui ai dit oui, mais est-ce que tu sais réellement dans quoi tu t'engages? Il suffit pas qu'on soit tous les deux pour avoir un enfant, ça risque d'être beaucoup plus long et plus compliqué que ça.
Et t'avais envisagé l'adoption ou t'es resté focus sur la GPA? On t'en avait parlé de l'adoption d'ailleurs plutôt.
Ouais, en fait, avec mon conjoint, avec Johan, on a listé, on a commencé quand on s'est mis d'accord, quand on savait tous les deux qu'on voulait un enfant ensemble, on a commencé à lister toutes les possibilités qu'on avait. Donc il y avait à ce moment-là la greffe d'utérus en fait qui était en test en France. Donc il y avait les premières recherches sur des femmes. Donc nous, il y avait ça dans la liste. Il y avait l'adoption. Il y avait ne pas avoir d'enfant, il fallait qu'on... Enfin, en fait, pour nous, c'était important de réfléchir aussi et de se confronter à cette solution-là ou à cette issue. Et puis, il y avait la GPA. Et en fait, en discutant, après une discussion, des recherches, on a quand même fait des tests, on a rencontré des médecins pour la greffe d'utérus. Mais je pense que je me sentais pas... Ça me semblait trop énorme. Voilà, ça me faisait peur que c'était un peu trop gros pour moi, je pense. L'adoption, on se sentait tous les deux, je pense pas assez mature. On se disait que c'était une énorme responsabilité. Que c'est pas qu'on a, enfin, si on a notre enfant, c'est pas qu'on a le droit à l'échec. Mais si en plus on a d'autres, puis on sépare. Enfin, en fait, on était effrayés par la suite. On se donnait énormément de responsabilités pour cet enfant qui déjà avait des difficultés dans la vie, rencontrait des problèmes dans la vie. Et puis ne pas avoir d'enfant, c'était pas une solution. Et donc, la GPA, c'est ce qui nous semblait le plus adapté à nous.
D'accord. Donc là, vous prenez la décision, on part sur une GPA. Par quoi tu commences?
Par quoi on commence? Alors, on commence par aller voir le professeur qui m'a suivi, qui s'appelait Monsieur Pagnel, qui m'a suivi à l'hôpital de Créteil, pour faire un peu un état des lieux et lui demander... ce qu'il en pense, s'il a des contacts à nous donner. Donc on reprend rendez-vous, on commence par aller voir ce monsieur. Et puis ensuite, on cherche des heures sur Internet, on se renseigne, et puis on se rapproche d'une association où il y a régulièrement des AG. Et en fait, il y a plein de types de personnalités qui viennent parler de la GPA, des psychologues, des philosophes, des médecins. Et ensuite, en fait, c'est des heures et des heures de recherche, de discussion, de questionnement, d'essayer de comprendre le sujet, les enjeux. juridiquement, financièrement, géographiquement aussi. Et puis en fait, c'est comme un entonnoir. On a au départ un maximum d'infos, on ne sait pas trop quoi en faire. Puis au fur et à mesure, les choses se dessinent. Et on essaye de s'y retrouver dans ces milliards d'informations. Et on finit par se frayer notre chemin.
Ouais. T'as pu discuter à ce moment-là avec d'autres femmes ou d'autres mamans qui étaient passées par là ou pas encore à cette étape?
En fait, donc dans cette asso, ce qui était pas mal, c'est que souvent à la fin des échanges de la matinée, il y avait des parents qui venaient présenter leur parcours, qui étaient ça y est maintenant parents et qui venaient présenter leur parcours. Après, on est assez timides, Johan et moi, donc on a toujours été un peu en retrait. On n'a jamais... maintenant, je pense que je le ferai plus facilement. Je pense qu'on ne s'est pas assez appuyé justement sur des rencontres, sur des échanges, on l'a fait, mais timidement. Ouais.
Donc là, on te donne quoi? On te donne plusieurs pays où c'est possible de procéder à une GPA?
Oui et non, en fait. On nous fait comprendre qu'il faut quand même être extrêmement vigilant juridiquement sur chaque pays, que il y a des pays qu'il fallait faire très attention au droit du sol, s'assurer que quand l'enfant naissait, il naissait avec un passeport, qu'on puisse rentrer avec lui pour ensuite faire une demande de nationalité française. Et donc en fait, on comprend rapidement qu'on n'a pas 10 000 solutions si on veut faire ça dans les règles et que on veut pas se mettre en danger ou mettre en danger cet enfant. On comprend que il y a le Canada, les États-Unis, il me semble l'Australie, et qu'après c'est assez restreint. Donc on se dit qu'on va quand même sur un chemin assez sécure, on se dit.
Ok, donc là vous avez le pays, comment ça s'organise ensuite?
On a le pays, on se décide sur les États-Unis. Quelqu'un nous donne, via l'association, on a des infos sur des agences. En fait, on évite nous de chercher un milliard d'agences sur Internet, parce qu'on se dit qu'on n'aura pas les comparer, mais on ne sait pas les comparer sur les unes avec les autres sur quoi. Donc en fait, on se fie un peu à ce que nous donnent les gens. Donc on s'arrête sur une agence en Californie. Ce qui nous rassure, c'est que la Californie, c'est l'état pionnier de la GPA. Donc la pratique est installée depuis longtemps, juridiquement c'est calé, ils ont l'habitude. On rencontre, on a des échanges en fait avec une traductrice française, puis une rencontre avec le médecin. Ensuite, ils commencent à nous demander de faire des tests en France, s'assurer que du côté de Johan, tout va bien, que de mon côté aussi, mes ovules vont bien. Donc, on commence une batterie de tests ici, en France. Puis, on se rend compte que moi, j'ai une réserve ovarienne assez faible et que du côté de Johan, tout va bien. Donc, les choses s'accélèrent un peu et en gros, nous disent il faut partir dans l'année, sinon après, c'est trop tard. Enfin, c'était un peu catastrophique comment on nous a présenté les choses. Donc, on se retrouve à organiser un voyage pour un prélèvement de mes ovules et le prélèvement du sperme de Johan quelques mois plus tard, en juillet. Donc on part à San Diego, on en profite aussi, ça sera nos vacances. Mais on part d'abord pour prélever mes ovules et le sperme et faire des ovocytes.
Ok, donc là tout se passe bien à ce niveau-là, prélèvement?
Alors nous on va dire que dans notre parcours compliqué, tout est simple. Enfin en fait tout a fonctionné du premier coup et on a extrêmement de chance. Alors qu'on avait très peu, moi la ponction, en gros c'était un peu, on n'en a pas eu beaucoup. Donc même si vous avez un ovocyte, un embryon à la fin, estimez-vous heureux, ça sera déjà super. Donc la chance qu'on a eue, c'est que finalement, on en a eu trois, alors que c'était inespéré. Avant de partir, nous, le médecin nous a dit vous ne répondez pas du tout au traitement, ça ne sert à rien de partir, il n'y aura pas d'ovule de votre côté. Mais nous, on s'est dit bon, en fait, on a mis tellement d'argent sur la table, en fait, on ne peut plus revenir en arrière, donc on est parti. On s'est dit tant pis, on le fait et on verra bien. Il s'avère qu'on a eu trois embryons. J+6, donc c'était inespéré et c'était super.
Et là, il y a déjà une mère porteuse qui a été désignée ou comment ça se passe?
Non, pas encore. Là, on est vraiment dans la phase médicale. Nous concernons, donc les trois embryons sont congelés aux États-Unis, à San Diego. Et ensuite, en fait, on nous avait dit que c'était moins cher à Miami, qu'on pouvait prendre une autre agence pour la personne qui allait porter l'enfant. Donc, on a commencé à se renseigner. En fait, on a perdu un an. On est tombé sur des gens qui ne nous répondaient pas. Et puis, en fait, pareil, on s'est mis à comparer. Mais en fait, on a perdu du temps parce qu'on ne savait pas quoi comparer. Et finalement, on a décidé que même si ça nous coûterait un peu plus cher, on restait avec l'agence de San Diego qui nous proposait aussi de trouver quelqu'un qui allait porter le bébé. Donc, c'est un an plus tard.
Tout ça se gère à distance.
Et tout ça se gère de chez nous, dans notre malgré notre travail, malgré tout ça se gère à distance avec le décalage horaire et tout le reste.
Comment tu vis cette attente pendant un an entre la ponction et le moment où ça va être enclenché?
C'est interminable, ça nous semble interminable. Je pense que c'est énormément de questionnements. Avec Johan, on avait tendance à essayer de tout rationaliser, tout intellectualiser pour, se protéger de tout le reste. Bah, extrêmement long. Et puis on voit aussi, ce qui est pas facile, c'est qu'on voit autour de nous toutes les familles qui se construisent, tous les couples qui se transforment en famille à deux, puis trois, puis quatre. Donc je pense que ça paraît long et interminable et en même temps, en fait, on peut pas faire grand-chose. On est assez, on fait en fonction de tout ce qu'il y a autour de nous et des médecins et des attentes et des mails et.
Ok, comment ça se passe ensuite? Est-ce que tu reçois un coup de fil, un beau jour, on te dit on a quelqu'un pour vous? Comment se fait la sélection de cette femme qui va porter votre bébé?
Alors, en fait, on a dû, un peu comme une fiche Tinder, on a dû remplir une fiche profil avec des photos de Johan et moi, de ce pourquoi on fait une GPA, de qu'est-ce qu'on cherche. Un peu un profil attractif. Et en fait, notre profil est proposé à des femmes qui nous choisissent. Et ensuite, on nous envoie aussi également des profils, des personnes qui nous ont choisis. Donc, de femmes, un profil pareil, qui ressemble à un profil Tinder. Sa photo, si elle a des enfants ou pas, si elle accepte... est-ce que c'est une césarienne? Est-ce que c'est accouchement par voie basse? Enfin, un espèce de package avec le prix. Et ensuite, on nous propose une rencontre sur Skype, un échange, un premier échange, qui a duré très peu de temps d'ailleurs. Donc nous, c'est Samantha. Je vais utiliser le nom du parce que dans le livre, on a changé son prénom. Donc c'est Samantha. On rencontre Samantha sur Skype, un rendez-vous qui dure très peu de temps. C'est un peu étrange en fait. Nous, on sait pas trop quoi dire. On est un peu impressionné. En même temps, on a envie d'être choisi. Enfin, c'est un peu étrange. Et en même temps, elle semblait aussi impressionnée, un peu stressée, mais très à l'américaine, donc très souriante, très ouverte, très extravertie. Et à la fin du rendez-vous, elle nous dit bon, peu importe vos décisions, mais moi, je vous choisis. Je vous choisis. Sachez-le. Et là, en fait, avec Yoann, on se dit, qu'est-ce qui fait qu'on va pas la choisir, en fait? Enfin, on n'a pas de critères à donner. Comment on choisit quelqu'un ou on choisit pas quelqu'un? Enfin,
sachant que vous aviez pas vu d'autres personnes.
Non.
C'était la seule, en plus.
C'était la seule. Alors, je pense que potentiellement, il y en avait d'autres. Mais en fait, on s'est dit, qui on est pour juger si oui ou non cette personne est la bonne? C'est un peu étrange comme situation. Et du coup, on s'est dit, en fait, on n'a pas de raison de dire non, on n'a que des raisons de dire oui. Et donc, on a accepté. Et la seule frustration, c'est qu'on a pu vraiment commencer qu'à discuter avec elle via un WhatsApp tous les trois, que quand elle était enceinte, que quand ils ont entendu un cœur battre. Donc au départ, on n'était que dans des échanges via la clinique, en fait, et via l'agence.
Et tu parlais de tarifs pour tes femmes. Et qui applique les tarifs? Est-ce que ce sont des tarifs différents?
C'est l'agence. Et je pense que ça diffère si elle a déjà porté un enfant, si elle a déjà fait une GPA ou non, de l'âge. Enfin, il y a plein de critères qui sont un peu... on n'a jamais trop posé de questions, en fait. On s'est laissé un peu... on s'est dit que c'est déjà assez compliqué comme ça. On ne va pas se pourrir l'esprit avec des détails. On voulait s'assurer, en tout cas, que si elle est entièrement d'accord, elle sait dans quoi elle s'engage, si tout nous semble éthique, en gros, aux uns aux autres, si tout le monde est d'accord avec ce dans quoi il s'engage, On était OK, sachant que nous, on avait préalablement trouvé l'argent en faisant des prêts à la banque. Enfin, on avait réussi à réunir déjà une somme.
Est-ce que ça représente combien à peu près
Ça représente...
Quand ça fonctionne la première fois, d'ailleurs.
Oui, tout compris. Hein, je veux dire tout compris, peut-être avec le logement, l'avion, la première partie et tout. Je pense qu'on en a eu entre 120 000 et 130 000 euros.
Ouais, c'est une sacrée somme, effectivement.
Oui, c'est sûr. Alors qu'on n'a pas... Enfin, à ce moment-là, on avait des salaires... Enfin, moi, je gagnais 1 700 euros par mois. Johan... pas beaucoup plus que moi, mais après, on a de la chance d'être dans la famille de Johan. Ils ont une maison de famille, on a pu s'y faire un appartement. Donc, on a un loyer qui est moindre. Et puis après, on a mis toutes nos économies, chacun de toute notre jeunesse. Et on a fait, il y a nos familles qui nous ont aidés. Et puis, un bout de prêt à la banque.
Comment on explique ça à la banque?
Ah, ça a été épique. Bon, en fait, nous, on s'est dit, on joue la carte de la transparence. On dit la vérité. Soit on tombe sur quelqu'un qui est choqué, qui veut pas nous aider, et tant pis. Soit on trouve la bonne personne, et tant mieux. Donc, on prend rendez-vous avec ma conseillère à ce moment-là. Et il s'avère qu'en fait, une femme qui avait une trentaine d'années, et en fait, qui, elle, était dans un parcours de PMA, et donc, qui s'est senti, je pense, qui s'est vu en nous, et du coup, qui nous a dit, ah, je ferai ce que je pourrais pour vous aider. Mais en fait, elle-même, de ce que je comprends, c'est que je crois qu'elle est tombée enceinte, et ça a été un peu compliqué à ce moment-là. Donc, en fait, elle est en arrêt. Donc, on n'a pas pu aller au bout. Donc, on a rencontré la conseillère de Johan, qui, elle, par contre, était paniquée par la situation. Elle nous a dit qu'elle pouvait rien faire. Elle nous a finalement proposé une assurance vie, enfin complètement de la plaque. Okay. Et après, on a eu de la chance, une connaissance de connaissance de connaissance, quelqu'un qui bossait dans une banque. Et donc, elle nous dit allez directement chez lui. En fait, on un ami d'amis. On se retrouve un soir pour un apéritif. Et puis, lui nous a dit ok, moi je vous accompagne.
Ouais. Un sujet assez clivant, la GPA. D'ailleurs, toi, au niveau de tes proches, comment ça s'est passé quand t'as annoncé que tu faisais ce parcours avec une mère porteuse?
Chez moi, ça a toujours été très ouvert. Enfin, mes parents étaient présents quand j'avais 14 ans, qu'on a appris ça. Donc, je pense qu'aussi, eux, c'était ancré. Et puis après, le reste, tout le monde a grandi un peu avec ça. Tout le monde a grandi, vieilli avec ça. Ma grand-mère, je pense qu'elle a toujours eu un peu de mal à comprendre techniquement comment c'était possible. Elle a 100 ans presque, elle a toute sa tête. Mais elle suivait le truc et elle était ravie. Donc non, chez nous et même du côté de Johan, peut-être du côté de Johan, vu que c'était plus nouveau, il y a peut-être eu des questionnements, des craintes. Mais en tout cas, on a été soutenus par nos proches, non.
D'accord, donc là... Vous avez la femme qui va porter votre bébé. Elle a déjà fait ça auparavant ou c'est la première GPA qu'elle fait? Elle a déjà des enfants?
Elle a deux enfants. Elle a à peu près notre âge et elle a jamais fait ça. C'est tout nouveau pour elle.
Elle vous explique pourquoi, quelle est sa démarche là-dedans ou...
Il y a plusieurs raisons. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'on se sent à l'aise, c'est que c'était assez honnête. Donc la première... Elle a envie d'aider des gens à avoir un enfant. Elle s'est sentie extrêmement épanouie en tant que mère. Et après, il y a aussi une question financière où elle dit, elle vit plutôt bien. Elle a un métier, mais que cet argent lui permettra de mettre un peu d'argent de côté pour les études de ses enfants. Donc, elle dit évidemment, je peux pas nier qu'il y a une partie financière. Après, nous, ce qui nous rassurait, c'était que c'était aussi un critère de l'agence, c'était que les femmes qui faisaient ça n'étaient pas en besoin financier. Ils avaient une vie stable avec un travail.
Oui, ils ne dépendent pas de cette somme d'argent. Ouais.
Non.
Okay. Est-ce que vous échangiez sur vos peurs et vos doutes? Parce que finalement, c'était nouveau pour tous les trois. Donc là, vous commencez à former quand même une équipe finalement dans ce parcours.
Complètement. Je pense que oui et non. C'est-à-dire que je pense que chacun, on essayait de trouver notre place. Nous, on avait très peur déjà qu'on était assez envahissant dans sa vie. Enfin, quand même, elle allait pas porter notre enfant, donc c'était. Donc, on s'est toujours gardé de faire très attention aux questions qu'on posait. On voulait pas être trop. On voulait qu'elle se sente aussi libre de vivre sa vie. Et puis, donc, je pense qu'on a eu des échanges un peu de présentation très classiques. Toute sa famille nous a présenté ses frères, ses sœurs en photo, ses enfants. son travail, voilà, des choses. Je suis partie au cinéma ce week-end, j'ai vu ça, des choses très basiques. Et je pense qu'on a, avec le recul maintenant, je me dis qu'on aurait dû, mais par pudeur à ce moment-là, on a été très, très avare de nos sentiments profonds sur le sujet, sur le vrai sujet, sur le fond de ce qu'on faisait tous les trois.
À quel moment vous apprenez que ça a fonctionné, qu'elle est enceinte ?
Donc, nous, on avait pris la décision d'implanter 2 embryons en se disant que peut-être, potentiellement, on pourrait avoir des jumeaux et qu'on aurait 2 enfants d'un coup. On s'était dit, pourquoi pas. En fait, on reçoit la nouvelle, c'est un peu... On reçoit la nouvelle par mail en nous disant Sabrina est enceinte, malheureusement, il y a qu'un seul cœur qui bat. En fait, on est un peu dans des sentiments un peu ambivalents à ce moment-là où on est à la fois très triste parce qu'on vient de perdre l'espoir d'avoir 2 enfants et en même temps, on se doit d'être heureux parce que ça a quand même marché. Donc, je pense qu'il y a cette première nouvelle, en fait, d'ailleurs, c'est un des premiers trucs qui ne fonctionne pas finalement comme on l'a voulu. Et puis en fait, tout ça, ça s'efface très rapidement parce qu'on a enfin le droit de... On est enfin connectés tous les trois et donc on a créé un groupe WhatsApp où on est tous les trois. Et en fait, on constate qu'elle, elle est aussi désolée que nous. Et en fait, on est chacun entre nous, on est en train de lui dire « on est désolée, on espère que tu vas bien » et elle nous dit « je suis désolée que ça n'ait pas marché ». Et en fait, de là... Commence des interminables discussions au quotidien et puis ça y est on est enfin nous on a un prénom enfin en fait ça y est on est focus sur cet enfant qui est potentiellement là et qui est à venir. Et
ça aura pris combien de temps entre le moment où vous avez élu cette femme et le moment où elle est tombée enceinte?
Je sais plus, mais pas beau, ça a été finalement très rapide, je dirais 2-3 mois, enfin le temps de faire des tests complémentaires, qu'il vérifie son cycle, qu'il s'assure. Enfin, ça n'a pas été si long que ça.
Ok. Et alors, comment se passe sa grossesse? Comment vous organisez? Est-ce que vous faites des allers-retours à San Diego ou tout se fait à distance pendant la grossesse?
Non, tout se fait à distance, clairement pour des raisons financières. Tout se fait à distance, des messages quotidiens. S'assurer que tout va bien, des colis de Noël pour ses enfants. Elle nous envoie aussi une photo d'une écho encadrée avec une peluche où dedans, quand on appuie dessus, en fait, il y avait le cœur du bébé. Elle avait enregistré en fait le cœur d'une écho qu'elle avait mis dans un petit haut-parleur et en fait, quand on appuyait sur cette peluche, le cœur battait.
Génial.
Des photos et puis des discussions, enfin... l'éternelle question, tout va bien, t'es en forme, ouais, ça va.
Elle n'a pas eu de complication particulière?
Non, mais en fait, il y a eu le Covid. Donc, le terme était prévu pour juin. Et en mars, la frontière avec les États-Unis ferme. Et donc là, on se dit, merde, comment on va faire pour aller chercher notre enfant, en fait? En plus, on ne savait pas trop encore ce que c'était, donc c'était assez angoissant. Nous là en France on est confinés avec Yoann, on a attrapé le Covid, on est malade comme pas possible. C'est un tas qui nous demande si on veut qu'elle arrête de travailler, parce qu'elle travaillait dans la santé, dans un hôpital, sachant que si elle arrêtait de travailler il fallait qu'on prenne en charge financièrement les temps où elle arrête. Donc nous on avait plus beaucoup d'argent de côté, enfin il nous restait quelques euros de côté et en même temps en fait ça avait pas de prix. Nous on voulait que tout se passe bien. Donc on prend la décision, on lui dit voilà, on veut pas t'imposer d'arrêter de travailler, mais elle nous l'a proposé, donc on se dit ok. Et puis là nous on rentre dans un truc où il faut qu'on trouve une solution pour quitter la France en fait, parce que donc des échanges avec l'ambassade de France aux États-Unis, l'ambassade américaine à Paris, puis on doit monter des dossiers interminables, il nous manque des papiers, non ça va pas, l'enfer. L'enfer sur terre là. Sur l'association, il y avait un blog, donc plein de gens dans notre situation. Et puis nous, on avait prévu à la base de partir, le terme était prévu pour le 21 juin, à peu près 20 juin. Nous, on avait prévu de partir 2 semaines avant pour prendre le temps, pour la rencontrer, rencontrer sa famille. Et en fait, on n'avait toujours pas de feu vert de l'ambassade pour partir. Et en fait, on s'est dit, bah, en fait, personne ne nous dit rien. On va tenter le tout pour le tout, on va prendre l'avion, on va aller à l'aéroport et on va voir. Et donc nous, on se pointe à l'aéroport. On enregistre nos bagages, on passe la douane. Donc, on se dit, bon, bah, en fait, c'est bon, tout va bien, on va pouvoir partir. Et puis, au moment de monter à bord, signal rouge sur nos billets. Ils nous disent, ah non, c'est pas possible. Donc, on explique, on monte le dossier. Ils nous disent, non, vous ne monterez pas à bord, c'est foutu. En plus, donc, ils font venir un marshal, donc un policier américain, qui nous dit non, on lui dit ouais, mais regardez, on a tous les dossiers. Il nous dit oui, mais vous avez tous les dossiers, mais vous n'avez pas le papier qui me dit que votre dossier c'est OK.
Mais attends, là c'était où? Là c'était plus en France.
C'était à l'aéroport Charles de Gaulle.
Ah d'accord,
c'était en France.
Ok.
C'est juste avant de monter à bord, en fait, il y avait l'avion qui allait partir quasiment vide avec juste quelques Américains sur place. Et là, donc lui nous dit bah en plus aujourd'hui c'est un jour férié, donc je peux même pas appeler, il n'y a personne dans les bureaux. Donc en fait, non. Du coup, on rentre chez nous et ils nous disent en plus « Bah ouais, mais votre avion est parti, donc maintenant vous pouvez plus vous faire rembourser, vous devez reprendre un billet. » Et ce policier américain m'a dit « Écoutez, ayez confiance, vous m'envoyez tout par mail et je m'arrange. » Et je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'il a fait. Je lui envoie tout par mail et puis il finit par nous avoir une autorisation pour partir, alors qu'on n'avait toujours pas d'autorisation de l'ambassade américaine, enfin personne nous autorisait à partir et lui nous a dit vous en faites pas, vous reprenez un vol dans 1 semaine ou dans 4 jours après, je sais plus, vous allez pouvoir partir. Et effectivement, on prend un avion et on arrive à décoller. Et en fait, une fois arrivé aux États-Unis, 2 jours après, on reçoit un mail de l'ambassade qui dit c'est bon, vous pouvez partir. Mais nous, on est déjà sur place. Et on a eu de la chance parce que Rose n'est pas arrivée en avance.
Ah là là. L'épopée en plein Covid, quoi.
Ouais.
Ok, donc là, vous arrivez. Donc, l'accouchement est prévu pour dans quelques jours. Est-ce que vous avez discuté de tout ça, de la manière dont l'accouchement se passerait, où il se passerait, sachant que c'est payant en plus aux États-Unis aussi?
C'est compris. Après, c'est vrai que on l'a découvert qu'on allait devoir payer une partie sur place, mais il y a une partie qui est prise en charge. Nous, c'était noté que c'était une césarienne, donc on le savait. Au départ, on pensait être tous les deux présents. Puis Samantha, de toute façon, avec le Covid, il n'y en avait qu'un seul d'entre nous qui pouvait même être dans l'hôpital. Et donc, avec Samantha, on a compris. En fait, naturellement, j'ai changé davantage avec elle. Et elle était plus à l'aise que ce soit moi que Johan. Donc, moi, j'étais présente pour la césarienne le jour J.
La rencontre avec ta fille, comment ça s'est passé?
C'était un peu un processus. Non, c'était dur. L'accouchement était... pourtant, c'était une césarienne. Elle était... Rosa était magnifique, pleine de cheveux, je l'imaginais. Mais j'avais tout d'un coup cet enfant, la concrétisation de 4 années à fantasmer ce truc-là devant mes yeux. Et puis en même temps, j'étais seule, il n'y avait pas Johan, j'étais loin de ma famille, loin de mes amis. Enfin, c'était c'était dur. J'étais un peu perdue en fait. J'avais pas, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Puis je pense que j'ai eu aussi tout d'un coup de voir Rose sortir du corps d'une autre femme, parce qu'en fait il y avait tous les médecins autour de moi qui étaient tous c'est super, prenez-la en photo, regardez, enfin en fait tout le monde me dictait un peu mes comportements que je suivais un peu mécaniquement.
Ouais.
Et donc je pense que ça m'a un peu je sais pas, c'est comme si tout d'un coup tout prenait vie en fait, le fait que je puisse pas porter d'enfant, le fait que là en fait j'avais la concrétisation en face de mes yeux. Que Et puis j'avais la peur, je me disais, mince, j'espère que c'est vraiment ma fille, ils se sont pas trompés.
Ouais, t'avais besoin de processer un petit peu tout ce qui t'arrivait, quoi.
C'est ça. Et donc après, tout d'un coup, on m'a mis, ce bébé que j'avais imaginé des années, on me l'a calé dans les bras comme ça. Donc c'était un peu difficile. D'ailleurs, j'étais, la nuit d'après, j'étais malade, j'en ai vomi toute la nuit. Et Johan a pu monter quand même dans l'hôpital. Enfin, on a réussi un peu à faire du forcing. On était accompagnés. Donc, Johan a passé les premiers jours. On était tous les trois dans une chambre. Donc, avec Rose. Moi, j'ai appris, comme beaucoup, à être maman. Mais je pense aussi à prendre du recul sur tout ce qui venait de se passer. Et puis, sur la suite qui allait arriver, que j'étais maman. Et je pense que sur le moment, je me sentais pas maman, c'était bizarre.
Et donc là, comment ça se passe avec Samantha ? Règles que vous avez mis en place pour l'après-accouchement ?
Alors, déjà avant, nous, avec Yann, on était clair, on était OK pour qu'elle rencontre, pour qu'elle voit Rose, ça nous semblait extrêmement important. Enfin, l'idée, c'est qu'elle soit présente. On imaginait, j'espérais réussir à construire peut-être un lien particulier avec elle. On était en fait à quelques chambres de distance. Donc, avant de nous sortir de l'hôpital, on a proposé à Samantha si elle voulait lui donner à manger. Mais en fait, moi, je me suis retrouvée un peu face à moi-même, à une réaction que je n'imaginais pas. En fait, c'était difficile pour moi de la voir avec Rose. J'avais l'impression que ça m'empêchait d'être maman, parce qu'en plus, c'était pas méchant, mais elle me donnait des conseils, parce qu'elle avait déjà deux enfants. Mais du coup, moi, j'étais tiraillée entre « j'entends bien, mais en fait, j'ai besoin de ce temps ». Et puis après, nous, on avait encore du temps après. Donc la règle, c'était « on est présent, elle la voit ». Et ça, pour moi, c'était important. Mais en fait, ça a été plus compliqué que ça. En plus, elle nous a proposé de lui donner son lait. Et en fait, moi, j'ai pas osé lui dire non, parce qu'elle avait déjà tellement donné. Enfin, en fait, j'avais l'impression d'être redolée. Enfin, d'ailleurs, j'ai parfois toujours un peu l'impression de tout lui devoir. Donc, il y avait quelque chose d'un peu complexe dans les relations. Et puis, en même temps, en fait, je me voyais pas lui donner son lait. Pour moi, c'était la limite. J'avais besoin de rencontrer mon enfant et de trouver ma place là-dedans, et c'était difficile. Je pensais que pour elle c'était difficile aussi. Elle a mis beaucoup de son cœur, beaucoup de présence, et c'était la première fois, et d'ailleurs depuis elle a refait. Mais c'était complexe malgré les règles que je m'étais imposées, ou les choses dont avec Yohann on s'était dit. Et en fait, moi, j'ai été comme paranoïaque, comme si on allait venir prendre mon enfant, en fait.
Ouais. Oui, tu as plein d'idées. Et en fait, quand ça se concrétise, finalement, tout change. Mais comme quand on dit souvent, avant j'avais des principes, maintenant je suis maman, on ne sait pas tant qu'on ne l'a pas vécu, en fait, comment on va réagir.
C'est ça. Et en fait, je pense que il y avait un truc très, je pense, comme un instinct d'animal, en fait, un truc où moi, il fallait que je me prouve que c'était mon enfant, et que, ben, quelque part, elle avait passé 9 mois avec elle, et que c'était aussi mon tour. Alors que je la remercie, je lui dois tout, mais sur le moment, c'était trop difficile. Elle est venue, pourtant, elle est venue, nous, dans l'appart qu'on avait loué, elle est venue 2 fois. Et là, on a pris le temps, et je pense qu'elle non plus, elle n'avait pas mesuré comment c'était difficile pour moi aussi.
Ouais. Vous avez parlé de tout ça toutes les deux ? C'était implicite et vous compreniez sans trop en parler ?
Non, à un moment donné, il y a une espèce de rendez-vous aux États-Unis une semaine après la naissance. On va dans un centre, c'est des pédiatres. Et en arrivant dans ce centre, la dame à l'accueil me dit « Ah, je suis vraiment désolée, on a donné le rendez-vous à Samantha en même temps, donc vous allez la rencontrer. » Et en fait, moi, sur le moment, je dis « Mais c'est pas grave. » Et en fait, je sors du rendez-vous et j'étais avec Rose. Et là, je rencontre Samantha. Et en fait, Samantha se met à pleurer devant moi. Et elle me dit « T'inquiète pas, c'est les hormones et tout. » Et en fait, je sens bien que j'y suis pour quelque chose. Donc moi, je m'excuse en lui disant « Je suis vraiment désolée, je te fais subir ça. » Et donc là, je pense que toutes les deux, on a compris que il y avait des choses qui se jouaient, qui étaient au-delà de ce qu'on espérait. Et quand elle est venue plus tard chez nous, elle m'a dit « Et toi, ça va ? Et comment t'as vécu quand tes amis étaient enceintes ?» Enfin, elle a commencé à se poser des questions aussi au-delà d'elle. Et donc, et moi, je lui ai aussi posé la question « Tu vas bien, c'est sûr ? Il faut qu'on fasse le mieux pour chacune. » Voilà, je pense qu'on avait du mal à trouver notre place toutes les deux.
Et alors, combien de temps vous restez encore aux États-Unis après l'accouchement? Parce que vous ne pouvez pas repartir en avion avec un nourrisson.
En est reparti. Rose, elle avait 2 semaines et demie, presque 3 semaines. Juste le temps là où le Covid, par contre, nous a rendu service, c'est que en fait, tout était accéléré. Donc, on a pu avoir ses papiers d'identité très rapidement, une autorisation pour quitter le pays. Donc, on est même parti plus tôt que prévu. Donc à peine 3 semaines, un tout petit peu moins de 2 semaines et demie, je crois.
Donc là, retour à la maison, comment ça se passe tes premiers pas dans ta maternité, chez toi, avec ton bébé, ça y est?
Je fais un été de fête, je crois. Un été de fête avec tous les amis qui passent. On est rentré en surprise déjà, donc on a fait la surprise, on a dit à personne qu'on rentrait plus tôt. Donc on a fait la surprise à toutes nos familles, en arrivant avec elle, donc c'était incroyable. Et après, moi, la frustration de pas avoir de congé maternité, en fait.
Ah oui.
Donc de reprendre rapidement le travail.
Ah oui, t'as rien dans ces cas-là.
Ouais, non. J'avais là où je travaillais avant, je faisais plein d'heures sup et tout, donc j'avais cumulé un maximum de jours que j'avais pu poser pour allonger des vacances, mais j'avais pris pas mal de temps avant. Donc après, j'ai repris un truc classique, elle avait 2 mois, je crois, deux mois. Mais vu que c'était l'été, il y avait un truc de vacances, et puis tout d'un coup, la rentrée, je repartais dans ma vie un peu classique. Je pense qu'on a eu... Les premières années un peu difficile, parce qu'il fallait digérer tout ça. Et qu'en fait, on était reparti dans un quotidien, Yoann et moi, sans prendre vraiment le temps de respirer. Il y avait les vacances qui étaient une parenthèse un peu super, avec tous les amis, la famille. Je pense qu'on n'a jamais pris le temps de respirer, lui et moi. Et donc, ça a été pas facile. Et moi, j'avais énormément de culpabilité pour Samantha. Ça m'est resté très, très, très longtemps. Et j'ai eu beaucoup de mal à me sentir... maman. J'avais énormément d'amour pour Rose. J'aurais fait n'importe quoi pour elle, mais j'avais du mal à être légitime, à me sentir légitime d'être maman. Et que j'étais confrontée à plein de questions en rentrant qui étaient un peu... et l'accouchement, ça s'est bien passé. Et du coup, je savais pas quelle était la limite de ce que je pouvais raconter, ce que j'avais envie de raconter aussi. Et donc, j'étais quand même dans un entre-deux pas facile, et puis le temps aussi d'assumer tout ça, je pense.
Et ça a pris combien de temps pour que tu te sentes légitime enfin?
J'ai eu un premier quand Rose a eu un an, je me suis dit elle a enfin passé plus de temps avec moi, comme si ça y est, je la connaissais mieux que Samantha. Donc j'ai eu ce premier truc où je me suis sentie Et puis quand j'ai appris aussi que Samantha avait fait une deuxième GPA, ça m'a un peu soulagée. Je me suis dit, je porte pas tout sur mes épaules. C'est aussi sa décision et elle sait dans quoi elle s'engage. Et après, dans ma construction, dans ma rencontre avec Rose, dans comment je la connais, comment on a grandi toutes les deux et comment ça a pris, je pense 2 ans. Hein. 2 ans, ouais.
Vous avez gardé contact avec Samantha ?
Oui, en fait, moi, je me suis fixé une règle, c'est que déjà pour Rose, quand elle sera plus grande, si un jour elle veut la rencontrer, je veux pouvoir lui dire où elle est, ce qu'elle fait. À chaque anniversaire de Rose, je lui envoie un message. Et puis à chaque pendant les fêtes, pendant Noël, message de bonne année. On échange un petit peu. J'ai pas envie de couper les ponts, mais j'avais besoin de prendre un peu de distance.
Et donc cette histoire-là, vous l'avez racontée avec une de tes amies, parce que en fil rouge, vous avez vécu votre infertilité toutes les deux, une amie d'enfance. Est-ce que tu peux nous raconter aussi comment s'est créé cet ouvrage sur votre parcours à toutes les deux? Donc toi la GPA, elle Caroline la PMA, qui passera dans un autre épisode pour nous raconter aussi son parcours. Comment ça s'est fait?
Déjà, on s'est rendu compte que c'était deux parcours très différents, mais qu'on avait des ressentis parfois très similaires. Et quand Caroline a rencontré Isabelle Saporta de chez Fayard pour, au départ, éditer un livre sur mon parcours et le parcours de Johan et de Rose sur la GPA. Elle a dit un peu clairement, oui, bon, une énième histoire sur la GPA, qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus ? Pas que c'est inintéressant, mais que peut-être aller chercher aussi ailleurs. Et donc Caroline se retrouve à lui raconter aussi son histoire. Et là, elle lui dit, mais vos enfants ont donc 2 mois d'écart. Vous avez vécu ces 2 grossesses tellement différentes au même moment. Et en même temps, vous vous connaissez depuis que vous avez 5 ans. Elle dit, c'est une histoire de maternité, mais c'est une histoire d'amitié. C'est une histoire de femmes qui grandissent ensemble, qui sont adolescentes, puis qui deviennent femmes, puis qui deviennent mères. Et elle dit, c'est ça le fil rouge, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, en discutant avec Caroline, elle dit, c'est vrai. Et moi, ce que je trouvais hyper astucieux, hyper intelligent, c'est que ça déportait aussi tout le sujet de la GPA sur l'infertilité, où au départ, en fait, cette pratique, elle est clivante pour plein de raisons. Et en fait, là, ça rappelait que avant la GPA, il y a un désir d'enfant et il y a un problème d'infertilité, et qu'on n'arrive pas à la GPA par plaisir ou par envie. Et donc voilà. Et donc en fait, au fil de l'écriture de ce livre, on s'est rendu compte que nos deux histoires parallèles sont très différentes et à la fois très similaires.
Puis c'était ta confidente aussi, Caroline, pendant tout ce parcours, puisque tu lui racontais chaque étape. Donc ça a dû renforcer d'autant plus votre amitié.
Ouais, complètement. Et puis donc c'est vrai qu'avec Johan, on y allait régulièrement avant le confinement. En fait, quand on a commencé vraiment la GPA avec Johan, on allait régulièrement chez Caroline, on lui racontait nos ressentis, où on en était, nos questionnements. Il s'avère que quand nous on en a implanté 2, elle a appris que elle était enceinte de jumeaux, puis nous on en a perdu un. Enfin, il y a plein de choses très similaires. Et donc oui, en fait, c'était la personne parfaite pour écrire ce livre, parce que finalement c'est une des personnes qui me connaît le mieux, et je savais qu'elle trahirait jamais mon récit.
Ouais. Donc le livre, il s'appelle Tout s'est bien passé, merci.
Ouais.
Pourquoi ce titre ?
Parce que en fait, on se rend compte que la fertilité, c'est quand même toujours un peu un sujet tabou, mais qu'en fait, on alimentait nous-mêmes ce tabou en répondant systématiquement oui, tout va bien, oui, ça se passe bien. Et moi-même, avant de dire ouvertement les difficultés relationnelles que j'ai pu avoir avec Samantha, peut-être parce que j'avais un peu honte de ce que je repensais, on s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on fait vraiment avancer le sujet et le débat si nous-mêmes, on dit que tout s'est bien passé? Et donc voilà, on a appelé ce livre-là comme ça parce que systématiquement, on répondait ça et qu'on n'avait plus, et que maintenant, on n'a plus envie de faire semblant, on a envie d'assumer et de dire que c'est important d'en parler.
Alors, on l'a dit plusieurs fois déjà, mais c'est un sujet clivant. Donc, on parlait de tes proches où tu disais qu'il n'y avait pas eu de sujet, tu as été très bien entouré et soutenu. Au regard de la société aujourd'hui, toi, comment tu te sens par rapport à la GPA ? Quel est le regard qui est encore porté sur cette pratique ?
Alors, moi, je suis pour, hein, évidemment. L'enjeu de ce livre, c'était quand même de ne pas faire un livre politique. C'était aussi l'idée. On ne voulait pas du tout politiser le sujet et c'était vraiment raconter un parcours. Moi, je suis pour, et je pense justement qu'il faut pas laisser les gens seuls. En fait, on se sent tellement seul à ce moment-là. La société française, elle doit accompagner. Johan adore dire. Il dit souvent que en fait, ce syndrome, c'est comme un handicap. C'est un handicap invisible. En fait, on peut pas avoir d'enfant et en fait, c'est une réponse comme une autre. Et je pense que pour éviter justement ce genre de travers, de débat, en fait, il faut accompagner les gens et que la GPA éthique, ça existe si tout le monde est d'accord, en fait, qui ça gêne. Samantha était d'accord, nous on était d'accord, qui on gêne. Et je pense qu'il faut accompagner les gens et qu'il faudrait développer ça en France, je pense.
Il y a des femmes qui t'ont contactée suite à tout ça ?
Ouais.
Que t'as pu conseiller à ton tour
J'ai des échanges. Je suis très contente parce que c'était... En fait, avec Caroline, on s'est toujours dit, si on vend pas beaucoup de livres, on s'en fiche. L'important, c'est que ça puisse, à des moments clés, aider des femmes ou des hommes. Force est de constater que c'était surtout des femmes, nos échanges. Mais c'est là où on se dit qu'on a réussi, c'est que effectivement, on a eu des échanges avec plusieurs femmes à ce sujet-là. J'ai eu des échanges téléphoniques. Et d'ailleurs... Je suis assez ouverte, même si faut me contacter sur Instagram et tout, je suis ouverte pour en parler et pour accompagner. En tout cas, à mon échelle et à ce que je connais, ce que je sais.
Vous envisagez de faire une deuxième GPA ou ce sera Rose, l'enfant unique?
Alors, c'est un sujet. Mon conjoint, il aimerait bien. Moi, je suis beaucoup plus sur la réserve, d'une parce que je ne sais pas si j'ai encore les épaules pour un deuxième. Ça me paraît une montagne, en fait. Je ne sais pas si j'ai la force de recommencer. Si je pouvais avoir un enfant naturellement ou facilement, je le ferais. Mais je ne sais pas, là aujourd'hui, je ne me sens pas à la hauteur. Je n'ai pas les épaules, je pense, pour recommencer. Et j'ai envie de me concentrer sur Rose et d'être là pour elle. Et je n'ai pas envie d'être sur plusieurs fonds, mais il nous reste un embryon là-bas. Donc la porte, elle n'est pas fermée, on verra plus tard.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité?
Moi, j'ai beaucoup grandi, je pense. Pris beaucoup de maturité, de recul sur les choses. J'ai beaucoup appris sur moi-même, je pense. Et encore et toujours, d'ailleurs. Et je me sens très épanouie avec ma fille dans la relation que je tisse. Je vois qu'elle est quand même ce que j'avais fantasmé. Enfin, quand je la vois tous les jours, elle est ce que j'avais fantasmé. Et en fait, l'accompagner à vivre dans cette société, pour moi, c'est la chose la plus passionnante au monde.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne?
Ben moi, c'est de confronter ma fille à la culture.
Quel est ton endroit kids friendly préféré?
En moi, la forêt.
Ouais. Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille?
Alors, rien que pour moi, me sentir bien dans mes baskets et me sentir bien. Et pour ma famille, de la douceur, de la joie de vivre et de continuer un peu dans cette lancée tous les trois.
Merci beaucoup Julie.
Merci, j'étais ravie.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite! Thank you.